RMC.
After Lyon.
Le podcast.
Chers supporters de Jean-Marc Knapp et de Nadir Belhadj, bienvenue dans le podcast After Lyon qui est là avec vous pour 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL comme toutes les semaines. Daniel Riolo est là. Daniel, bonjour.
Bonsoir les amis.
Et Edouard G en direct de Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut Daniel.
Au programme, un petit point mercato, on va notamment parler de Terrier et de Guiri. Les déclarations du week-end de Juninho et Jean-Michel Aulas, plus l'avenir d'OL Valley en question. Et oui, on dit désormais OL Valley. Tout ça, c'est tout de suite dans le podcast After Lyon, c'est parti. Démarrons sur le mercato, Edouard. Florian Maurice avait fait venir Terrier à Lyon, ils veulent le faire venir à Rennes. Où en est-on?
Martin Terrier est avec le groupe du côté d'Evian pour le stage qui a débuté ce dimanche. Donc on peut imaginer que les tractations ont commencé. Il semblerait que ça soit bien parti, en tout cas que le joueur soit déjà d'accord pour poursuivre celui qui, comme tu l'as dit, il a fait venir à Lyon et vraiment pense qu'il a un super avenir. On a déjà parlé la semaine dernière, Martin Terrier, puis un autre attaquant, parce que la semaine dernière, souvenez-vous, Daniel, Gilbert, je vous parlais qu'il y avait beaucoup de monde devant. Ouais. On évoque aussi Amine Gouiri. Alors, il était dans le groupe convoqué pour aller à Evian. Il était dans les noms et officieusement, on a appris qu'il n'y était pas il est plus proche de Nice et ce serait un transfert de 6 millions d'euros pour le jeune Amine Gouiri, un Nord-Isérois qui a fait toutes ses classes à l'OL. Donc, ce serait un nouveau départ pour une pépite, comme l'appellent tous les suiveurs de l'académie de l'OL. Lui qui a été freiné dans sa progression par une blessure au ligament du genou, c'était il y a presque 2 ans maintenant, et donc il devrait poursuivre sa carrière du côté de Nice. Juninho ce week-end, Juninho avait compris que voilà, Amine Gouiri est allé le voir pour lui dire j'ai besoin de temps de jeu, et du coup il est parti du côté de Nice.
Voilà, donc Lyon, on est bien d'accord Edouard, Lyon vend ce jeune joueur 6 millions, donc on n'est pas dans le cadre des départs dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, à savoir ceux qui partaient avec juste l'indemnité de formation qui retombait dans les poches du club. Là on peut parler carrément de transfert à 6 millions. Ils vendent un jeune 6 millions parce qu'ils ont décidé soit de ne pas le garder, soit parce que le gamin sentait avec son entourage qu'il n'aurait pas sa chance et il a envie d'aller dans un club qui va faire plus jouer les jeunes. J'ai bien décrit le cadre.
Tout à fait. Bon, et Juninho, l'a entendu là-dessus.
Donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème apparent. C'est un choix aussi bien du joueur que du club. C'est plutôt, on va dire, là, on peut dire que c'est bien géré de la part de Lyon. Après, aujourd'hui, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'un jeune part comme ça, la question qui est un peu sous-jacente et qu'on met pas tout de suite sur le tapis, c'est en fait la peur d'avoir laissé, parce que toi tu utilisais le mot pépite, en fait c'est la peur de voir exploser plus tard justement une pépite qu'on n'aurait pas su retenir. C'est ça qui fait flipper en fait tous les clubs, c'est pour ça que souvent ils se précipitent à faire signer une tonne de jeunes, et c'est pour ça qu'il est très dur pour les formateurs et ceux qui doivent décider de un tel monte ou un tel ne monte pas, est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on se trompe pas. Il y a toujours cette hantise là. Moi, étant donné qu'il est quand même très très difficile de voir et de savoir si le mec va devenir une bombe atomique plus tard, parce qu'il y a tellement, et je pense aujourd'hui plus qu'hier, d'éléments soit perturbateurs dans une carrière ou d'éléments qui font qu'un mec devienne fort ou devienne pas fort. Moi, je serais d'avis que les clubs, enfin d'ailleurs peut-être qu'ils le font pas, de se prendre la tête là-dessus, mais qu'ils ne devraient pas trop se prendre la tête. S'il y a une entente entre l'entourage, le club, là c'est une vente, 6 millions, c'est toujours décevant quand le mec part pour rien du tout, tu vois. Bon, après, et ça, on risque d'avoir ça de plus en plus maintenant. Guiri, mais là, je trouve que Lyon s'est bien démerdé sur cette affaire.
Guiri, il n'a pas marqué l'histoire non plus, on ne va pas se mentir.
On ne l'a pas vu.
C'est pas le meilleur jeune lyonnais qu'on ait vu ces dernières années.
Non, mais en fait, Gilbert, le truc, c'est que si l'année prochaine, j'en sais rien, il fait 30 matchs, il met 10 buts et on en parle et il fait 4 articles de presse, il y a des gens qui vont tomber sur les gens lyonnais en disant vous l'avez pas.
Si à Lyon il y a mieux, non, mais c'est ça mieux, le truc.
Non, mais je sais, mais le problème c'est qu'il est là, Gilbert. Il est dans l'analyse qu'on fait par rapport à ça.
Edouard.
Mais il faut pas oublier pour Amine Gouiri, malheureusement pour lui, il y a bientôt 2 ans, c'était le 31 août, donc ça fait 2018, qu'il s'est fait un genou. Du coup, ça fait 1 an pour revenir. Et c'est vrai que certains formateurs et du côté de l'OM est-ce qu'il va retrouver le niveau?
Alors, absolument.
Certes, et moi, alors je vous parle du mot pépite, mais je déteste ce mot, mais je l'utilise parce qu'à l'instant T, je vais arrêter de l'utiliser.
Dis jeune joueur, laisse la pépite au chercheur d'or.
Parce que tu nous as vendu quelques dizaines des pépites depuis quelques années, toi, quand même. Hein.
Bon, il en a eu quelques-unes, Doudou, sous les yeux, quand même. Doudou, t'as passé le tamis.
Oui, j'ai passé le tamis. Le dernier en date, c'est Maxence Cacré, vous verrez. Là, j'ai utilisé.
On verra.
J'avais oublié.
Un de temps en temps, pas 4-5 par an. Donc voilà, pour Amine Gouiri, peut-être que cette blessure l'a freiné dans l'idée de pour l'OL d'avoir un top joueur qui, à terme, peut jouer le très très haut niveau. Alors, comme tu l'as dit, Daniel, peut-être qu'il va marquer 25 buts avec Nice et on tombera sur l'OL, le centre de formation.
Non mais aujourd'hui pour un club de toute façon c'est ça, on sait qu'en France on forme énormément de joueurs et Lyon dans ce domaine est un club particulier. Si tu regardes très franchement Edouard, même un soir tu pourras nous faire ça dans l'after, ce serait intéressant, prenons depuis 2010, allez même sur les 20 dernières années, Lyon ils ont formé un nombre de joueurs assez colossal, de mecs qui sont allés ensuite même dans d'autres clubs de Ligue 1. Le problème, après, c'est, enfin, je sais pas, là on peut citer les je sais pas, je pense à Grenier, Gassama, tu sais, des mecs même qui ont joué en Ligue 2, tu sais comment ça, il y avait toute une série de joueurs, Ferry par exemple, enfin pas mal de mecs comme ça qui soit n'avaient pas le niveau pour jouer réellement, enfin on a estimé qu'ils n'avaient pas le niveau pour jouer en équipe 1, et puis il y a ceux qui sont même partis à l'étranger, je veux dire. Ça fait beaucoup au final. Après, il y a un choix.
T'as quand même 3 champions du monde 2018 qui sont formés par l'OL.
Après, c'est soit on forme, parce que tu les fais jouer, soit on forme parce que tu penses que tu peux les faire jouer, soit parce qu'il faut les vendre. Le truc, c'est que maintenant, il y a cette nouvelle donne que les mecs se barrent, alors sans toucher d'argent de transfert, mais juste l'indemnité de formation. Ça va être un problème que les clubs vont avoir à gérer dans les années qui viennent. Et Lyon, Lyon également. Mais entre le PSG et Lyon, je te jure, si tu prends ces deux clubs, sur les 15 dernières années, mais tu as une tonne de joueurs qui évoluent ailleurs en Ligue 1 ou à l'étranger, même dans des clubs inférieurs en Ligue 2.
Hein. C'est pas nouveau à Lyon. Hein. Rappelez-vous de gars comme Balmont, par exemple, il y a quelques
absolument,
années.
Oui, absolument, t'as raison.
Un jour, je vous fais le bilan, parce que j'ai pas tous les noms en tête. Mais
Bergouni, pareil.
Et au final, combien ont joué? Et en final, tu devrais faire la liste à côté de tous ceux qui ont joué un nombre de matchs assez conséquent en équipe 1 à Lyon. J'entends par là. Tu commences avec Ben Arfa, Benzema, tu continues après avec Umtiti, Lacazette, Tolisso, Lopez, Gonalon, et bon, Ferry, il sera dedans aussi parce qu'il en a fait quelques-uns, mais Brechet, tu verras qu'après, il y en a qui sont
Lopez,
partis. Après, t'en as qui sont partis, qui n'ont pas tous été bons.
Qui ont joué un peu, mais pas trop. Par exemple, Jérémy Clément, par exemple, tu vois, formé à Lyon, on s'en souvient pas forcément.
Ce genre de mec-là, voilà. Loïc Rémy, Martial.
Il a quand même passé sa cinquantaine de matchs avec l'OL avant de partir.
Il y en a une tonne, en fait. Et après, ils ont produit et du bon et du moins bon.
C'est une bonne usine à joueurs, en fait, l'OL. Non,
exactement. Mais le tout est de savoir, tu les as formés en pensant qu'ils feraient équipe 1 ou en fait, tu ne peux pas tellement décider à l'avance. Tu vois leur évolution, tu vends. Bon, voilà. Après, ce qu'il faut, c'est bien les vendre. Et Lyon a plutôt réussi de ce côté-là.
Allez, on enchaîne. Sujet suivant. On va parler de là, c'est Juninho. Oui, tous les deux s'expriment ces dernières heures. Qu'est-ce qu'il faut retenir de leurs interventions, Edouard ?
Alors, les deux dans Le Progrès, qui a réussi un joli coup un samedi avec Juninho et puis ce lundi avec Jean-Michel Aulas. Ils travaillent. Juninho qui revient sur son arrivée l'année dernière avec Silvinho. Il estime que c'est une erreur d'être venu tout seul dans une ambiance générale avec d'autres entraîneurs, on va dire. Silvinho soit venu tout seul.
Il aurait dû venir apprendre. Avec un staff, quoi. C'est ça que ça se
voilà, c'est ça. Voilà. Il estime qu'il a appris de ses erreurs, que voilà, il devra faire mieux cette année parce qu'il a eu une année d'apprentissage. Il a expliqué, mais tout ce qu'il nous disait aussi, qu'il est une équipe gentille, mais qu'il constate aussi que c'est incroyable de demander aux joueurs de donner de l'intensité dans les entraînements. De mon époque, comme il dit, déjà, il fallait dans les entraînements être très fort pour gagner sa place en match. Et que pour les jeunes, c'est ce qu'il leur dit, c'est que les entraînements, ça doit être votre Coupe du Monde.
C'est peut-être aussi parce qu'il y a une baisse de qualité globale, non ? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, puis changer l'état
d'esprit. Franchement, pas que.
Changer les cadres aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est une histoire de cadre.
Moi, je comprends ce que dit Juninho.
Edouard, fini, vas-y.
Ouais. Pardon.
Justement, il disait, de mon époque, les gens nous disent, vous étiez plus fort. La vérité, c'est qu'on s'entraînait comme on jouait, c'était un plaisir. Tous ceux qui arrivaient savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'être à 70%, car nous, les anciens, donnions l'exemple.
C'est l'exigence qui a baissé.
La clé de tout, c'était l'intensité aux entraînements.
Exactement.
Et du coup, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de cadre, c'est une question de leadership dans l'équipe. Et c'est ça qu'il veut faire retravailler. Et on en parlait la semaine dernière, hein, souvenez-vous, avec Sacco, par exemple. C'est ce genre peut-être de leader par l'exemple, par ce qu'il peut apporter, que ça va changer l'atmosphère générale de travail. Et parler d'intensité à l'entraînement, c'est assez incroyable. Voilà pour ce que voulait Juninho.
Ah, Edouard, tu veux réagir là-dessus aussi. Daniel.
En fait, on le sait de toute façon, c'est toujours... Enfin, il ne peut pas y avoir... C'est un truc, je n'arrive pas à comprendre qu'on ouvre aussi peu les yeux sur ça. On ne peut pas entendre autant de témoignages, lire autant d'interviews de joueurs qui nous répètent à longueur de saison que quand ils arrivent dans les clubs étrangers, les entraînements ne sont pas les mêmes, que l'intensité est plus forte, que l'exigence est plus grande, que les entraînements durent plus longtemps, que les mecs arrivent une demi-heure avant, une demi-heure après. Les gars, je ne suis pas en train d'exagérer. On est d'accord qu'on lit cette interview-là, on la lit combien de fois? Le dernier en date, Ferland Mendy, je le prends en exemple, parce que c'est un ancien Lyonnais qui n'est pas resté super longtemps. Qu'est-ce qu'il dit quand il arrive au Real? Une de ses premières interviews. Donc, moi, je comprends que quand Juninho arrive, il insiste encore là-dessus. Nos clubs ne font pas assez travailler les joueurs. Mais notre problème, vous savez ce que c'est? C'est que nos consultants, ceux qui travaillent chez nous, mais ceux qui sont également dans les autres médias, ne veulent pas admettre ça. Ils ne veulent pas en entendre parler. Je le sais, je me bats avec les consultants
Daniel,
chez nous.
C'est bien pour ça. Ils font pour beaucoup partie les entraîneurs qui mettent en place le système.
Mais Gilbert, alors, je t'en prie, la prochaine fois, je te promets, je vais t'interpeller face à eux pour que tu te ranges derrière moi. Tu dis, on ne peut pas avoir autant. Ça fait 20 ans que ça dure. Vous savez qui était le premier marquant? Si je m'en souviens, c'est peut-être parce que ça collait un peu avec les débuts de l'after et tout. Mathieu Flamini arrivant à Arsenal.
Vicage Dorasso à Milan.
Ouais, bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai un démarqueur fort, Mathieu Flamini, à Arsenal. Parce qu'en fait, il avait tellement peu joué à l'OM qu'à peine arrivé, on avait même dit « Ouais, le mec, il crache un peu sur l'OM et tout. » Elle avait fait un peu grand bruit. C'est pas un hasard. Putain, mais nos consultants ne veulent pas et eux font du mal. Parce que nous, après, on est seuls en tant que journalistes et à chaque fois, ils nous renvoient dans la tronche. Mais de toute façon, vous savez pas, vous savez pas, vous savez pas. Mais putain, il y a un truc qu'au moins, on sait faire, nous, les journalistes, c'est lire. C'est lire. On sait les lire, les interviews. On les entend, les interviews. Et quand Juninho arrive et dit ça, il le dit pas par hasard, Juninho. Il les voit, les entraînements. Alors, lui, ce qu'il apporte en supplément, que je trouve très intéressant, c'est de dire que peut-être que pour les faire bosser plus, c'est plus simple quand tu as des joueurs importants cadres qui peuvent, en gros, mettre les taquets aux gamins.
Oui, mais alors, excuse-moi.
C'est un peu l'histoire.
Quelle
c'est un peu l'anecdote de Materazzi qui avait...
dans tout ça. Je veux dire, bon,
mais on les connaît, les coachs.
C'est aussi aux entraîneurs de donner le ton dans ce genre de
situation. Non,
de
Gilbert, parce qu'il y a une limite. Il y a une limite à l'entraîneur. La limite, c'est ne froisse pas le jeune parce qu'il a une valeur marchande.
Oh ouais,
ça, c'est un vrai problème. Mais on sait bien que notre problème... En fait, là, on a résumé tous les problèmes du football français en quatre phrases.
Il nous reste peu de temps, les gars.
Il est là. Donc, Jean-Michel Aulas, c'est intelligent et il faut le décrypter bien, de façon bien plus importante.
Jean-Michel Aulas, il dit quoi, lui, Edouard?
Jean-Michel Aulas, il rappelle qu'il va falloir vendre. Hein, donc, on en a parlé en début d'after avec Guiri, potentiellement aussi Martin Terrier. Tout simplement parce qu'il y a 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins cette année avec le Covid, qu'il y a beaucoup moins d'argent aussi avec les droits télévisés qui ne sont pas rentrés, même s'il y a eu l'emprunt à 92 millions là, qui va un petit peu aider. Mais il va falloir vendre des joueurs. Et concernant Memphis, il fera la finale, le huitième de finale face à Turin, éventuellement la suite s'il y a suite au mois d'août, mais que tout cela peut traîner jusqu'au 13 octobre, la fin du mercato. Donc le mercato à Lyon n'est pas terminé. Il va falloir faire rentrer de l'argent du côté des joueurs.
Bon,
il va falloir mettre des sous.
Bon. D'accord, donc lui il a parlé économique, hein, Aulas, hein. Il a quand même un petit coup de pression habituel.
Elle vous plaît pas mon imitation
si,
Claude Godin, là, ça vous
non,
plaît pas.
Nul.
Non, il a retrouvé les joueurs. très bien, il a trouvé les joueurs très bien là, à la reprise. Il suit un petit peu les entraînements. Il parle de l'état d'esprit en espérant que les joueurs mettront autant d'envie, de pugnacité, d'intensité dans les matchs que lui en a mis pendant le Covid.
Donc, alors là, ils sont champions. Voilà. Hein. Donc là, s'ils mettent autant que Liola s'en a mis pendant le coronavirus, ils sont champions, je te l'annonce.
Voilà.
Dis-moi, on devait parler de l'avenir d'OL Valley, on le fera la semaine prochaine dans notre podcast prochain. Juste un mot.
Pourtant, j'avais des choses intéressantes à te dire.
Garde tout pour la semaine prochaine.
Alors,
Grégory Doucet, nouveau maire de Lyon, est-ce que ça peut changer des choses pour l'OL?
C'est le grand frère de Philippe.
Alors, non, c'est surtout Bruno Bernard qui est important, palette, parce que vous savez. À Lyon, il y a Grégory Doucet qui est le maire de Lyon, mais on ne va pas dire que c'est un poste honorifique, mais c'est le maire de la ville, mais celui qui a les pouvoirs, c'est le président de la métropole, et c'est Bruno Bernard qui va être très certainement élu, comme on dit, au troisième tour. En tout
c'est
cas,
le ticket avec Doucet. Hein.
Voilà, exactement. Mmh. C'est le ticket donc vert, et on peut le dire, hein, on le dit depuis quelques temps à Lyon, parce qu'on le sentait que les écolos allaient gagner à Lyon, et donc que les verts gagnent à Lyon. Vous imaginez un petit peu ce que ça fait pour la joke et pour 6 ans. Ah oui. Mais Bruno Bernard a déjà été en réunion, les verts à Lyon, depuis 2016, je ne sais plus, hein, c'était encore au groupe c'était à Gerland, je ne sais plus.
Tu me prends, en tout cas, il y a eu une victoire des verts au 21e siècle, voilà.
Exact. Oui, oui, il y en a eu deux même. Il y a eu le centième derby en 2010, il y en a eu d'autres. Et donc Bruno Bernard, qui est un fan de l'OL, qui est un fan aussi de basket, parce qu'il a joué au basket au départ de sa vie, puisqu'il est de côté de Villeurbanne. Il a déjà rencontré bien évidemment Michel Aulas. Ouais, il est de 70, non, quand même pas, non. Non, il est de 1970.
Il n'a pas joué avec un agile, alors.
Mais donc, Jean-Michel Aulas, qui a toujours un coup d'avance, fatalement, il l'avait déjà rencontré, Bruno Bernard, qui lui a dit que pour l'avenir, en plus, c'est un fan de l'OL, hein, Bruno Bernard, donc ça devrait quand même matcher entre les deux hommes pour la suite un petit peu d'OL Valley. Je vous en parlerai la semaine prochaine, en sachant qu'on s'achemine vers peut-être la continuité du Groupama Stadium, même si c'est à la fin du 30 juillet prochain, okay. 31 juillet, le contrat de naming, mais il y a des chances que ça continue encore un petit peu.
Très bien, la dernière victoire des Verts à Lyon avant la victoire des Écolos, c'était le 30 mars 2014, au foot, hein, bien sûr. Voilà. Merci Edouard, merci Daniel, prochain podcast After Lyon, ciao. La semaine prochaine.
After Lyon.
Le podcast.